Cours de métaphysique sur le livre Zeta d'Aristote, donné par le père Marie-Dominique Philippe, le 30 octobre 1984, Saint-Joseph.
Nous allons faire, nous allons continuer de regarder rapidement chacun des livres de la métaphysique d'Aristote. Je vous avais donc dit le livre Grand A, un livre très intéressant au point de vue historique, pour comprendre comment Aristote regarde ses devanciers. De fond, très important sous ce point de vue-là. Et comment Aristote voit cette nouvelle sagesse. C'est une espèce d'introduction, un peu rhétorique, c'est évident, mais quand même très belle, avec un souci de montrer ce que représente la sagesse. Le livre Petit A, c'est un livre critique. C'est encore une introduction. Ça peut très très bien être considéré comme une introduction. Mais c'est une introduction qui est d'ordre beaucoup plus critique. C'est le point de vue, vous voyez, l'investigation de la vérité est en un sens difficile et en un autre sens facile. Alors ça, il ne faut jamais oublier ce petit début du livre Alpha. Ce qui le prouve, c'est que nul ne peut l'atteindre adéquatement, ni la manquer tout à fait. C'est merveilleux, ça. Mais c'est là où il y a le plus de chance. Chaque philosophe trouve à dire quelque chose sur la nature, en lui-même, et cet apport n'a rien, sans doute, ou peu de choses pour la vérité. Mais l'assemblage de toutes les réflexions produit de féconds résultats. De sorte qu'il en est de la vérité, semble-t-il, comme de ce qu'il nous arrive à dire en proverbe, qui manquerait une porte. Considérée ainsi, cette recherche serait facile, mais le fait que nous pouvons posséder une vérité dans son ensemble et ne pas atteindre la partie précise que nous visons montre la difficulté de l'entreprise. Peut-être aussi, comme il y a deux sortes de difficultés, la présente difficulté prend-elle sa source, non dans les choses, mais en nous-mêmes, ce que les yeux des chauves-souris sont en effet à l'éclat du jour, l'intelligence de notre âme l'est aux choses qui sont de toutes les plus naturellement évidentes. Ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est la chauve-souris. Le philosophe, c'est la chauve-souris, en face de la vérité première. Là, il est fasciné, tourne autour. Ce que les yeux des chauves-souris sont en effet à l'éclat du jour, l'intelligence de notre âme l'est aux choses qui sont de toutes les plus naturellement évidentes. Il est donc juste de nous montrer reconnaissants, non seulement pour ceux dont on peut partager les opinions, ça c'est excellent pour un professeur, hein, écoutez bien, mais encore pour ceux qui ont exprimé des vues plus superficielles. Donc vous devez toujours être heureux d'un cours de philosophie qui vous aide, même si c'est superficiel, même si vous devez toujours être heureux, ça vous aide. Aristote dit qu'on doit être heureux pour tous ceux qui ont recherché la vérité. Étant donné que le but est très difficile, il dépasse complètement notre capacité, et étant donné qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours une petite parcelle de vérité. Oui. Et je crois que ça, c'est très juste. Et c'est vrai pour tous les philosophes, ça. Il faut, quand on lit un philosophe, se dire quand même, il a cherché quelque chose. Alors, où est la petite parcelle de vérité? Où est la petite miette? Où est le gros pain? Alors dans le livre Petit A, c'est donc sur la vérité. Montrer que cette philosophie, que la philosophie, c'est la recherche de la vérité. Alors, il y a quelque chose de très important dans le livre, dans ce livre Petit A, c'est de considérer qu'on ne peut pas remonter à l'infini. Le non precessus ad infinitum, qui est de Platon. Platon l'a déjà dit, Aristote le reprend, et saint Thomas le reprendra. Et c'est la chose qui demeure le plus longtemps, au-delà du principe de causalité. C'est très très curieux, ça. Là aussi, il y a une petite étude très intéressante à faire, au point de vue critique. Qu'est-ce que représente, au point de vue critique, le processus? On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Vous comprenez que c'est très important, ça. Parce que si on pouvait remonter à l'infini dans l'ordre des causes, la philosophie première n'existerait pas. C'est parce qu'on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes qu'on peut découvrir la cause première. Et qu'on peut découvrir, par le fait même que cette cause première, c'est l'être premier. Et par le fait même, la philosophie première peut devenir sagesse. Autrement, je ne saurais jamais. On peut toujours chercher. Alors là, c'est dans le livre Petit A. Hein. C'est pour ça que ce livre Petit A, il est tout petit, mais il est particulièrement intéressant. Il demanderait une étude très spéciale, si parmi vous, il y en a qui sont pris, épris et amants de ce livre Petit A. Il est tout petit et il est merveilleux, parce qu'il y a des tas de choses dedans, au point de vue critique. Donc, vous voyez, je crois qu'on peut dire ceci, hein, si on essaie de comprendre un peu. Le livre Grand A, c'est une introduction historique. Ce n'est pas de l'histoire. Hein. C'est la philosophie de l'histoire qui est impliquée dedans. C'est une philosophie de l'histoire. C'est la philosophie de toute l'opinion des philosophes qui cherchent les causes. Tous les philosophes ont cherché les causes. Eh bien oui, la philosophie va rechercher les causes. Et Aristote établit que la philosophie recherche les causes. Parce que c'est, la philosophie veut être une science. Et le propre de la science est de rechercher les causes. Le livre Petit A, c'est la recherche de la vérité. Toute philosophie recherche la vérité. Alors, il faut comprendre qu'il y a donc cette recherche particulière de la vérité et que, comme on ne peut pas remonter à l'infini dans des causes, il faut nécessairement qu'il y ait une philosophie ultime qui recherche les causes ultimes, qui recherche donc la cause première. Alors, on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Aristote le montre pour les quatre causes. C'est une chose très, très curieuse. On est obligé d'arriver à un premier. Alors, vous voyez ce que ça veut dire. C'est que, dans l'ordre essentiel des causes, il y a donc une détermination. Toute détermination répugne à la non-limite. Alors, il faut prendre infini dans le sens « ce qui n'a pas de limite ». Ce qui est au-delà des limites. Eh bien, tout ordre des causes, tout ordre essentiel des causes, va impliquer nécessairement une détermination essentielle. Partout où il y a une détermination essentielle, il faut arriver à une limite. Dans un ordre donné, autrement dit, si vous voulez, c'est la question de l'ordre. L'ordre n'est jamais quelque chose de premier. L'ordre implique toujours une mesure. Un principe. Et donc, tout ordre étant mesuré par le principe, on ne peut pas remonter à l'infini. Donc, c'est la question de l'ordre qui est impliquée dedans, au point de vue critique. Je ne dis pas plus, puisque je ne veux pas m'arrêter à ce livre. Le livre Bêta, c'est le livre des apories. Alors, quand vous avez envie de faire un peu de gymnastique philosophique, lisez le livre Bêta. C'est un livre extraordinaire au point de vue exercice, merveilleux. C'est ce qu'Aristote appelle la dialectique. C'est dans le livre Bêta que vous découvrez ce que c'est que la dialectique d'Aristote. Il est nécessaire, en vue de la science que nous cherchons, de nous attaquer, en commençant, aux difficultés, les apories, c'est les difficultés, aux difficultés qui doivent d'abord venir en discussion. J'entends par là à la fois les opinions différentes de la nôtre que certains philosophes ont professées sur les principes et en dehors de cela, tout ce qui a pu en fait échapper à leur attention. Alors Aristote montre que quand on veut résoudre une difficulté, il est bon de poser les apories, il est bon de poser les difficultés. Poser objectivement les difficultés, ça aide à mieux comprendre où gît la difficulté. C'est pour ça que pour Aristote, avant de traiter une question, il faut toujours voir le pour et le contre dans une perspective dialectique. Alors à ce moment-là, on entre dans ce qu'Aristote appelle la dialectique. La dialectique s'appuie sur les opinions des hommes. mes opinions des autres. Et je mets ces opinions en opposition pour mieux comprendre où j'ai la difficulté. Et par exemple, quand je recherche ce que c'est que la substance, je me dis, bien la substance, pour certains, c'est le sujet. Pour d'autres, c'est la forme. Il y a une opposition entre forme et sujet. Pour les uns, c'est le sujet, donc l'indéterminé. Pour les autres, c'est la détermination. Alors, je mets l'une opinion en face de l'autre, et ceci me montre mieux la difficulté. Et comprenant mieux la difficulté, ça m'oblige de revenir à une recherche plus profonde. Oui. Ça, c'est un passage. C'est quelque chose de très intéressant, le livre Bêta. C'est pas commode à lire, mais c'est une question très intéressante. Il faut la lire quelquefois, la plume à la main, pour voir tous les moments de la discussion. Vous voyez, il nous dit ceci, la fin de la discussion, en effet, ne vous apparaît pas alors clairement, elle n'apparaît clairement qu'à celui qui a auparavant posé les difficultés. Donc, c'est le propre, poser les difficultés, c'est de mieux montrer où il y a un nœud. Alors, ce livre Bêta est intéressant parce qu'on voit bien les difficultés qu'Aristote se pose. La première difficulté roule sur les problèmes que nous nous sommes déjà proposés dans l'introduction, l'étude des causes. Appartiennent-elles à une seule science ou à plusieurs? Il y a quatre causes. Est-ce que c'est la même science qui traite les quatre causes? Ou est-ce qu'il y a une science qui ne traite qu'une seule cause? C'est intéressant à savoir. C'est le point de vue propre de la critique. Est-ce qu'une critique, quand je critique la connaissance scientifique, est-ce que la connaissance scientifique repose-t-elle sur une recherche d'une seule cause ou sur les quatre causes? Et Aristote montrera que ça repose sur les quatre causes. Alors, le livre Gamma. C'est un livre extrêmement curieux. Il y a une science qui étudie l'être en tant qu'être. C'est là où vous avez la fameuse phrase, le toi et homme. C'est-à-dire ce qu'il faut traduire, ce qui est en tant qu'être. Matériellement, vous devriez dire en tant qu'étant, mais vous mettez en tant qu'être. Que vous formalisez, le on formalise. Donc on peut dire ce qui est en tant qu'être. C'est cette science nouvelle. Alors vous voyez, c'est important de voir qu'Aristote, dans le livre Gamma, souligne qu'il est très conscient qu'on est en présence d'une nouvelle science. Il y a une science qui étudie l'être en tant qu'être. Vous voyez, alors Tricot met un être, un E majuscule, c'est faux. C'est le toi néon, il n'y a pas de majuscule. Parce que le majuscule voudrait dire que c'est Dieu. Alors il y a eu des quantités. Alors là, toutes les interprétations qui ont été faites sur le toi néon, c'est énorme. Donc il y a une science qui étudie l'être en tant qu'être, ce qui est en tant qu'être, et les attributs qui lui appartiennent essentiellement. Elle ne se confond avec aucune autre des sciences dites particulières. Car aucune de ces autres sciences ne considère en général l'être en tant qu'être. Mais découpant une certaine partie de ce qui est, c'est seulement de cette partie qu'elle étudie l'attribut. Tel est le cas des sciences mathématiques. Donc Aristote souligne que cette science, il existe une être, qui est la science la plus universelle. La science du tout, si vous voulez, universelle comme le tout, qui n'exclut rien. Cette science n'exclut rien, c'est ça qui est intéressant à voir. Tout peut être considéré par cette science, puisque c'est ce qui est en tant qu'être. Donc tout peut être regardé par cette science. C'est la science qui n'exclut rien. Toutes les autres sciences sont des sciences particulières comparativement à cette science. Et puisque nous cherchons les principes premiers et les causes les plus élevées, Il est évident qu'il existe nécessairement quelques réalités à laquelle ses principes et ses causes appartiennent en vertu de sa nature propre. Si donc ceux qui cherchaient les éléments des êtres cherchaient en fait les principes absolument premiers, ces éléments qu'ils cherchaient étaient nécessairement aussi les éléments de l'être en tant qu'être, et non de l'être par accident. Donc, Aristote constate, c'est la constatation, mais vous comprenez très bien, pour pouvoir faire ça, il faut que la science de ce qui est en tant qu'être existe déjà. Donc, je peux dire que ce livre Gamma est un regard critique sur la philosophie première. Le livre Delta. Petit dictionnaire Lalande. Très intelligent. C'est un petit dictionnaire, le livre Delta. Donc pour les commençants, quand ils ne savent plus très bien comment signifie telle ou telle chose, ils n'ont qu'à se référer au livre Delta. Le livre Delta donne tous les termes, les expressions les plus familières de la philosophie. On commence par principe, vous allez voir. Principe se dit d'abord du point de départ du mouvement de la chose. Tel est par exemple le principe de la ligne et de la route, auquel répond un autre principe à l'extrémité opposée. Le principe, c'est le point de départ. Je pars d'un endroit, je vais vers l'autre. Le point de départ d'un quête, c'est un principe. Et Aristote aime de dire ex arche. Je pars de là, je pars de ce commencement. Point de départ. Le principe est aussi le meilleur point de départ pour chaque chose. Par exemple, même dans la science, il ne faut pas parfois commencer par le commencement et par les notions premières de l'objet, mais par ce qui peut le mieux faciliter l'étude. Donc le principe peut être le sommet, ce qui est le plus intelligent. Le principe est encore l'élément premier, immanent du devenir. Le principe se dit aussi de la cause primitive et non immanente de la génération, du point de départ naturel du mouvement. On appelle encore principe l'être. Vous voyez, Aristote énumère toutes les significations du principe. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et ça vous montre que le langage philosophique n'est pas commode. Hein. Qu'au fond, chaque fois, on devrait préciser. J'emploie principe dans ce sens-là. Alors, le principe, c'est ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. C'est ça qui est, je dirais, présent dans toutes les notions de principe. Vous avez ensuite l'expression de la cause. On appelle cause, en premier lieu, la matière immanente. Donc, après le principe, c'est la cause. Je vous montre ça, c'est parce que c'est un petit dictionnaire qu'il faut. Je ne dis pas lire depuis le début jusqu'à la fin, parce qu'il est complètement dans un état d'ébriété complet, si vous commencez par le principe. Mais il faut de temps en temps aller saisir un de ces termes et voir comment Aristote les présente. Il y a l'élément ensuite. Et alors c'est assez beau, vous savez, parce que c'est très astucieux. Hein. Il y a principe, cause, élément, nature. Eh bien, principe, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. La cause, elle est un principe dans l'ordre de l'être et dans l'ordre du devenir, ce que nous avions vu l'autre jour. L'élément, il est un principe immanent, matériel. L'élément, c'est toujours ce qui est le plus indivisible dans l'ordre de la cause matérielle. L'élément. Et la nature, c'est un principe dans l'ordre du devenir, c'est-à-dire son cause. Donc je vous renvoie ce livre Delta. Un très beau livre. Très beau livre. C'est un livre très intelligent. C'est un livre critique, là encore. Vous voyez. Alors mettons une petite marque pour tous les livres critiques, que je juge comme des livres critiques. Hein. Petit A. Il a disparu par ici. Petit alpha. Ici, il y a un grand A. Il y a un grand B. Alors ici, c'est un livre critique. Celui-ci est un livre critique. Celui-ci est un livre critique. Quand je dis un livre critique, c'est-à-dire un livre qui présuppose une réflexion sur quelque chose de déjà connu. Une réflexion sur quelque chose qui est déjà connu. Pour pouvoir réfléchir sur tous les termes, il faut que déjà que ces termes aient été employés à travers toute la philosophie. Alors on réfléchit dessus. Tandis que le livre Grand A et Grand B, ah non, ça c'est des livres vraiment. Grand B, c'est un livre de méthode, hein, dialectique. C'est la dialectique d'Aristote, qui n'a rien à voir avec la dialectique de Platon. Epsilon. Ensuite. C'est encore un livre de critique. Les divisions des sciences théorétiques. Les principes et les causes des êtres sont l'objet de notre investigation. Mais il s'agit évidemment des êtres en tant qu'êtres. Il y a en effet une cause de la santé et du bien-être. Les objets des mathématiques ont aussi des principes et des éléments et des causes. Et d'une manière générale, toute science discursive, ou participant du raisonnement, en quelque point, traite de causes et de principes. Alors, on va revenir sur la question sur la science, c'est donc encore un livre critique, la structure de la science. Aristote va revenir sur la question du sens de l'être, ou les divers sens de l'être, sur le point de vue de l'être au sens de vérité. Donc c'est un livre qui est difficile à bien saisir, un peu en continuité avec le livre Zeta, avec le livre Gamma. Alors, le livre Zeta, celui que nous allons voir. Alpha, Gamma, Zeta, Zeta. 1, 2, le livre Zeta, c'est le livre sur l'ousia, sur la substance. Qu'est-ce que c'est l'ousia? Voilà la grande interrogation. J'y reviendrai. Le TST, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce l'ousia? C'est un livre difficile, je vous ai déjà dit. Avicenne avait dit qu'il fallait lire 50 fois avant de le comprendre. Avicenne n'était pas un imbécile. Alors, on peut dire qu'il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, pour pouvoir comprendre quelque chose. Éteint. Je crois que c'est, alors là, application, je crois que ici on est en face du tiesti, ici on est en face du pose. Le comment de la substance. Une fois, j'interprète en disant ça, je le sais. Mais c'est pour essayer de comprendre autant qu'on le peut, parce que ce n'est pas dit explicitement par Aristote, comprendre autant qu'on peut l'ordre de cette philosophie première. Alors, le livre Theta, c'est le livre sur l'acte. On recherche aussi le TST de l'acte. et le poion, les deux. C'est-à-dire, donc c'est toute la grande découverte de l'être en acte. Et le titan. C'est aussi un livre très positif, très, très, non pas critique, mais vraiment de la métaphysique proprement dite. 4, 5, Yotta, c'est le livre sur l'un. L'un acolyte de l'être. N'oublions pas que pour Platon, l'un est au-dessus de l'être. Aristote va montrer que l'un n'est pas au-dessus de l'être, mais il est comme l'acolyte, c'est-à-dire la propriété. Dans toute science, on cherche la cause et on découvre les propriétés. Donc c'est le livre de l'un et du multiple. Vous avez ensuite le livre Kappa. Le livre Kappa est un livre qui est aussi difficile à situer, parce que certains donnent comme une espèce de récapitulation, une espèce de reprise, une espèce de retour. Très difficile à situer, le livre Kappa. Je me demande toujours si le livre Kappa n'est pas, après, voyez, après cet effort d'analyse, cet effort de saisir la propriété, de faire comme une espèce d'application dans notre monde physique. Donc c'est presque une pause. Je ne dis rien, mais je crois que c'est une pause. Le livre Lambda est plus facile à situer. C'est le livre de la théologie d'Aristote. C'est la théologie naturelle. C'est par là que la philosophie première devient sagesse. Vous savez que notre frère Stéphane Marie fait sa thèse de doctorat sur le livre Lambda. Alors, vous pourrez la regarder, c'est un petit livre, pas trop gros, vous pourrez la regarder, et là vous comprendrez que ça pose quand même pas mal de problèmes et que c'est intéressant d'essayer de comprendre cette théologie d'Aristote. C'est surtout au chapitre 6. Et tout est intéressant dans le livre Lambda. C'est un livre passionnant, le livre Lambda. Nécessité d'un premier moteur, nécessité, mais Aristote n'insiste pas du tout sur le premier moteur, c'est là où Aristote parle de l'acte. De l'acte sans puissance et de l'acte pur. Alors, les livres Mu et Nu. Sont des livres critiques sur Platon. Sont des livres critiques. Donc, on pourrait dire, puisque ce sont des livres critiques, je les enveloppe encore de bleu. Si j'essaie de cette manière-là, en comprenant bien tous les problèmes qui se posent au point de vue historique, c'est très très vrai, il y a quelque chose de juste dans tout ça, c'est très difficile. Mais je crois qu'il n'y a pas de solution au sens absolu. Vous voyez, il faut lire les critiques de mention sur Hegel. C'est très intéressant. Mention, c'est bien Louvain, a une perspective moins systématique que Hegel. Et je crois plus juste. Il y a des choses intéressantes à voir. Donc c'est les deux choses. Le livre de mention, je vous ai dit, sur l'évolution de la pensée d'Aristote, c'est un livre capital. Le livre de... Le compte-rendu de mention sur cela est particulièrement intéressant. Parce qu'on voit très bien comment mention reconnaît la part de vérité, et puis en même temps, il dit autre chose. essaie de moins forger la chose. Alors, réfléchissons un instant. Je crois que très vite Aristote a pensé à la philosophie première. Ça, on est tous à peu près d'accord. La période d'Assos. C'est-à-dire, dès qu'Aristote a quitté Platon. Je crois qu'il ne pouvait pas écrire une philosophie première tant qu'il était académicien. Il me semble. C'est possible. Il a réécrit la rhétorique, il a écrit des quantités de livres, de petits dialogues, mais c'était difficile. Je crois que c'est à la mort de Platon. La mort de Platon a libéré l'intelligence d'Aristote. Vous voyez, dans le sens là. La mort est toujours une libération, de temps en temps, c'est la libération d'un maître. Qui de fait pesait un peu trop. Platon a donné énormément à Aristote, mais il y a eu quelque chose là qui s'est fait. Et là, il est parti. Il a quitté, puisque je ne sais pas si dans le fond de son cœur, Aristote pensait succéder à Platon à l'Académie. Je n'en sais rien, tu aurais dit qu'il n'a pas succédé. Alors, c'est possible que, comme il n'a pas succédé, se mettre en dépendance d'un autre qui le jugeait bien inférieur à Platon, il est parti. Ça arrive assez facilement, ces choses-là. C'est des mœurs intellectuelles courantes. On comprend très bien, c'est pas du tout... contre, au point de vue de l'orgueil, non, c'est simplement parce que c'est les exigences de l'intelligence. Je crois que ça, c'est tout à fait normal. Toujours est-il qu'Aristote, très vite à Assos, a fondé une petite école. Puis il est revenu qu'après, longtemps, à Athènes. Mais il semble bien que très vite, Aristote, presque tous les critiques sont d'accord pour dire qu'Aristote n'a jamais accepté les formes en soi. Donc, jamais Aristote n'a accepté que le point de départ de la philosophie soit la réminiscence. Aristote n'a jamais accepté la réminiscence. C'est-à-dire, n'a jamais accepté que l'âme humaine, avant d'être incarnée dans le corps dans lequel elle se trouve maintenant, ait été de fait séparée et connue à un autre état. Jamais. Sans doute pour des convictions religieuses. Hein. Et aussi pour le réalisme de sa pensée. Il ne fait pas une philosophie des possibles, mais une philosophie de ce qui est. Ça qui l'intéresse. C'est ce qui est. Donc ce que nous atteignons par l'expérience. Ça c'est dit explicitement dans le livre Grand Temps. C'est dans le livre Grand Temps qu'Aristote dit que la philosophie commence par l'expérience. L'empérion. Et il faut comprendre alors que c'est que l'expérience. C'est quand même complexe. Très vite, Aristote donc a pensé qu'il fallait découvrir une philosophie à partir de l'expérience, qui recherche les causes. Ce que Platon avait déjà saisi, hein, faut pas dire que Platon n'avait pas saisi ça du tout, mais comme pour Platon, il y a une autre source de connaissance que l'expérience. On comprend très bien que la saisie interne des formes en soi, qui a donné source à une dialectique, la dialectique platonicienne, toute la philosophie de Platon est donc tournée vers les formes. Vers l'idéal, les formes en soi. Aristote n'acceptant pas ça, on reprend tout à l'origine. Et très vite, il me semble bien qu'Aristote ait conçu une philosophie première, c'est-à-dire une philosophie ultime. Et il me semble que ces livres ont été, on l'a dit, des notes d'étudiants. Je crois que c'est plus que ça. Parce que si je regardais les notes des étudiants... C'est encore plus compliqué que les métaphysiques. Surtout que, vous voyez, des notes d'étudiants avec ces talents à des âges successifs, ce serait très difficile. Je crois qu'il y a des notes, c'est Aristote, mais qu'Aristote n'a pas rédigé la métaphysique, sûrement pas. En recherche. Et pour lui, la métaphysique ne peut être qu'en recherche, tout le temps. C'est trop difficile, c'est trop divin pour notre intelligence humaine, pour être une science, une philosophie dans laquelle on prend des parts et le terme. Non, on est tout le temps en recherche. Alors, j'essaie de comprendre, donc ça, l'introduction. Qu'est-ce que les philosophes ont dit avant ? Ou plus, non, l'introduction, et qu'est-ce que les philosophes ont dit avant ? Le livre Bêta, un exercice pour bien assouplir notre intelligence. Alors, ça peut être en dehors. Ça peut être aussi comme quelque chose en dehors. Ça importe peu, mais je le mettrai assez facilement là. Ça peut très bien se faire là. Ce qui m'intéresse ici, la première recherche positive de la philosophie première, c'est la recherche du principe. Du principe propre de ce qui est. Parce que c'est ça. La métaphysique, c'est chercher les principes propres de ce qui est en tant qu'être. Alors on peut dire que le livre Zeta, nous allons voir, c'est vraiment la recherche du principe propre de ce qui est en tant qu'être. C'est-à-dire l'ousia. On va revenir sur l'ousia après. Puis, une fois qu'on a découvert le tiesti, il faut regarder le pose. C'est normal. Comme il n'y a pas qu'un seul principe en métaphysique, il y en a un second, qui est l'être en acte. On comprend très bien comment on consacre tout le livre Theta à la recherche de l'être en acte, qui est le point de vue de la fin, Telos. Et alors, la fin, c'est le tiesti et le poionti, c'est-à-dire, la fin, c'est de chercher à la fois, je veux dire, la recherche de la fin, c'est donc un principe, c'est une cause selon la fin, mais c'est en même temps quelque chose qui est tellement difficile à saisir qu'on en voit tout de suite les diverses modalités. Ça, c'est le livre Theta. Le livre Iota, la science ne se contente pas de découvrir les principes propres. Elle doit encore découvrir les propriétés de ce qui est. Et ça, c'est dit explicitement dans les analytiques. Si donc la philosophie première est une science, et Aristote ne cesse de le dire, donc on ne peut pas le nier, si c'est une science, elle cherche ses principes propres, elle découvre ses principes propres, et elle découvre ses principes propres par mode induit. Ceci est dit dans le second analytique. Un principe, on ne le saisit pas directement par l'expérience, on le saisit à partir de l'expérience grâce à l'induction. Donc, si la substance est principe, si l'acte est fin, principe fin, cause fin, il faut nécessairement qu'il y ait deux grandes inductions au niveau de la philosophie première, la découverte de l'ousia et la découverte de l'acte. Alors, c'est dit explicitement dans le livre Theta. Tandis que c'est moins dit dans le livre Zeta. C'est pas ça. C'est-à-dire que ça disait, nous allons chercher l'induction, tout le monde savait comment. Mais il nous dit, dans les secondes analytiques, qu'on ne peut découvrir les principes propres que par un mode inductif. Donc, ayant découvert les principes propres, il est normal qu'on découvre ensuite la propriété. Parce qu'autrement, on ne serait pas en phase d'une science. La science recherche la propriété. Quelle est la propriété de ce qui est regardé en tant qu'être ? C'est d'être un. Et c'est pour ça qu'il dit que l'un est acolyte de l'être. Acolyte, c'est-à-dire propriété. Hein. C'est ce qui suit l'acolyte. Nous, c'est ce qui précède. Mais là, c'est ce qui suit. Hein. C'est la différence. Parce que c'est l'acolyte religieux, en tout cas, c'est l'acolyte scientifique. Alors, l'acolyte scientifique suit. Il vient après. Il vient après. Il vient après parce que c'est à partir du principe qu'on déduit le principe. Qu'on déduit la propriété. Donc, je comprends que la propriété vient ensuite. Et il y a comme une espèce d'application. Alors, c'est là où le livre Kappa serait comme une application concrète de ce principe. On verrait comment ça se trouve réalisé dans notre univers. Puis, comme cette science est sagesse, il faut qu'on essaie de parler, de découvrir comment cette science non seulement regarde ce qui est en tant qu'être, mais cette science est capable de regarder l'être premier. C'est-à-dire Dieu. Il faut donc que cette science regarde Dieu et essaie de découvrir ce qu'est Dieu dans la mesure du possible. Qui est-il de Dieu? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Alors ça, c'est le vivant dedans. Vous voyez que chez Aristote, il n'y a pas au sens absolu de découverte de l'existence de l'être premier. L'existence de l'être, l'existence des dieux et l'existence de Dieu lui sont données par les traditions religieuses. Aristote ne met pas en cause ses traditions religieuses, mais il veut savoir ce qu'est Dieu pour déblayer toute la mythologie, la laisser tomber et découvrir ce qu'est Dieu. Oui, ce n'est pas donc la recherche de l'existence de l'être premier, c'est toute la différence avec le problème de la théologie de saint Thomas, où saint Thomas se pose la question que l'existence de l'être premier. Ça ne se pose pas la question. Il nous montre, et c'est ça qui est intéressant aussi, il nous montre dans le livre Lambda comment notre intelligence peut remonter jusqu'à Dieu. Mais en réalité, la seule voie d'accès qu'Aristote donne à l'existence de l'être premier, c'est dans la physique, où il montre qu'il existe nécessairement un moteur premier. Dans la physique, Dieu, il l'appelle moteur premier. Dans la philosophie première, Dieu, c'est l'acte, c'est la substance. C'est l'acte pur et c'est la substance séparée. C'est la deux manières dont il montre la transcendance de l'être premier. Les livres nus et nus, on comprend très bien, ce sont des critiques, donc on les laisse de côté. Donc vous voyez, si j'essaie, dans l'ensemble des œuvres d'Aristote, de voir ce qu'il y a d'aspect critique et garder uniquement ce qu'il y a de positif du côté scientifique. Je ne veux pas dire que la critique ne soit pas scientifique. La critique est nécessaire à la sagesse. La sagesse doit se critiquer. Donc c'est nécessaire. Mais ce n'est pas constructif. Alors si je déblaye le terrain en regardant les choses qui me semblent être purement critiques, je vois que cette philosophie première, Aristote montre que tous les philosophes ont été hantés de ça. Mais qu'aucun, avant lui, n'a pu découvrir pleinement ça. Pourquoi ? Parce qu'aucun n'a découvert parfaitement la finalité. Ça, je crois que c'est la grande raison. Et Aristote mettra tout son soin à découvrir la finalité dans l'ordre de l'être avec le livre Théâtre. C'est ça la partie la plus originale de toute la métaphysique d'Aristote. C'est le livre Théâtre. C'est la partie la plus originale. C'est cela, je crois, qui fait comprendre Heidegger salue le sommet de la philosophie grecque en disant Aristote a découvert l'entelechia. Il y a un petit passage dans Heidegger qui est extraordinaire là-dessus. Il salue ça. C'est très grand ça. Parce que ça prouve qu'il a saisi quand même qu'il y avait là. Alors c'est donc ce ça. Selon Heidegger, c'est le sommet de la métaphysique d'Aristote. Et j'en suis convaincu que c'est le sommet de la métaphysique d'Aristote. C'est pas le livre, c'est pas l'Ousia, c'est pas ça le sommet. Le sommet, c'est vraiment le livre Theta. Et alors, on retrouve, grâce à ce livre Theta, la possibilité d'une théologie naturelle. S'il n'y avait pas le livre Theta, pourrait-on avoir une théologie naturelle ? Je crois pas. il fallait découvrir la finalité pour avoir une vraie théologie naturelle. Théologie naturelle, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que Dieu, autant qu'on peut le connaître. Qui est-il Dieu ? Donc voilà l'ensemble pour que vous compreniez bien que le livre Zeta sa place. Vous voyez, donc il y a deux livres qu'il faut toujours regarder avec une attention très particulière. C'est Zeta et Theta. On disait toujours que Heidegger n'acceptait son séminaire sur Aristote, qui était souvent le livre Zeta, le livre Theta, que si on lisait le texte d'Aristote directement en grec. Et c'est très vrai que quand, si on peut, si on connaît un peu le grec, hein, quand on lit Trico, c'est évidemment assez loin du texte grec. Alors, il faut lire Trico parce que ça va plus vite, mais il faudrait loucher sur le texte grec. Et alors revenir toujours au texte grec pour essayer de préciser la pensée. Parce que la pensée d'Aristote, vous le verrez, est une pensée d'une concision et d'une force étonnante, comme précision et force, parce qu'il a un souci scientifique. Et le souci scientifique d'Aristote, c'est bien tout le temps de discerner l'expérience, les principes, les propriétés, le tiesti, le pose. C'est tout le temps bien discerner ces différents moments de la pensée. Parce que je crois que c'est ça le propre d'une pensée scientifique. C'est de discerner où l'on en est. À quel moment de l'analyse on est, à quel moment de l'induction on est, à quel moment de la déduction on est, et ainsi de suite. Pour préciser le cheminement de l'intelligence humaine. Parce qu'au fond, Aristote a très fort le sens